Culture, grand reportage.
Aujourd'hui, le monde qu'on nous offre, c'est chacun pour soi. Et celui qui arrive à avoir plus d'argent en écrasant les autres, c'est tant mieux. Alors que ça fait un an qu'on réclame d'autres types de modèles et on a des propositions.
Ce que j'ai vu cette année qui faisait bouger le gouvernement, c'est quand ça a pété sur les Champs-Élysées, que les gens se sont énervés et qu'ils ont annoncé le 10 des mesures après le 1er décembre où ça a été très très violent sur les Champs.
Les Gilets jaunes, c'est pas que des manifestations, c'est pas que des revendications, c'est aussi des actions. Ben, simplement parce que ce qu'on revendique avant tout, c'est remplir nos frigos. Ben, nous, on essaie déjà dans un premier temps de remplir juste des petits ventres une fois par semaine.
Un an après le début du mouvement, les Gilets jaunes battent le rappel. Ils misent sur une forte mobilisation ce week-end sur les ronds-points comme à Paris. Ils espèrent montrer à l'exécutif qu'il faut encore compter avec eux. Le 17 novembre 2018, lors de l'acte 1 du mouvement, les autorités avaient dénombré 282 000 manifestants. Lors des derniers actes, il n'était plus que quelques milliers, mais les forces de l'ordre s'attendent à un samedi compliqué. Elles ont déjà été prises de court par des mobilisations de dernière minute, des manifestations non déclarées et par l'infiltration des cortèges par des casseurs. Et si l'avenue des Champs-Élysées est sous haute surveillance depuis les dégradations du 16 mars, des Gilets jaunes rêvent de s'y rassembler à nouveau pour rappeler leurs revendications non satisfaites. Pouvoir d'achat, services publics, inégalités sociales, démocratie participative, leurs demandes ont pourtant été relayées dans le grand débat voulu par Emmanuel Macron. 17 milliards d'euros ont été promis. Les Gilets jaunes n'ont outre ouvert les yeux, affirmait encore ce matin le ministre de l'économie. Et selon Bruno Le Maire, le gouvernement a la volonté radicale de répondre à ce cri de souffrance qui a été poussé par des millions de personnes en France. Fin de citation. Un an après la naissance de ce mouvement de contestation inédit, qui est Gilets jaunes aujourd'hui? L'absence de porte-parole reconnue, les débordements, les violences et la riposte sécuritaire, comment tout cela a-t-il fait évoluer le mouvement? Enfin, la réponse politique est-elle à la hauteur? Gilets jaunes un an après, les mutations d'une contestation. C'est un reportage signé Sophie Delpont. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Arnaud Benedetti. Bonjour.
Bonjour.
Professeur associé en histoire de la communication à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Laurent Jean-Pierre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit In Jerum, les leçons politiques des ronds-points, livre paru cet été aux éditions de La Découverte. Ensemble, nous allons commencer par écouter le reportage de Sophie Delpont. Sophie, un an après son émergence, ce mouvement des Gilets jaunes reste encore difficile à saisir.
Oui, un an après, beaucoup sont rentrés chez eux, beaucoup aussi s'apprêtent à sortir à nouveau avec ou sans Gilets jaunes pour aller manifester sur leur rond-point ou bien à Paris. D'autres n'ont rien lâché depuis un an, on l'entendra. D'autres ont pris goût à la contestation ou simplement à l'engagement et ont investi d'autres actions. Ce reportage, une tentative d'immersion au cœur des Gilets jaunes d'aujourd'hui.
Et votre reportage débute justement par une immersion dans la dernière manifestation des Gilets jaunes à Paris, c'était samedi dernier.
Anticonstitutionnellement Macron !
Quand on est parti tout à l'heure, on devait être 80, 90. Puis là, ça a grossi quand même. On est quand même plus nombreux là. Disons qu'on est 200, allez, mais pas plus. Par contre, le 16 et le 17 novembre, il y aura une manifestation pendant 48 heures. Les Gilets jaunes, ils vont envahir Paris. Et Macron sera obligé d'être à genoux et sa Macronie aussi. Ils vont jamais tenir le coup. Le 16, ça va être déjà très chaud. Ce sera une nuit jaune. Paris sera jaune. Ils auront beau mettre autant de CRS qu'ils veulent, ils n'y arriveront pas. Hein. Parce que nous, il suffit qu'après qu'on rentre dans le tas, ça y est, c'est fini. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Hein. Dès qu'ils vont envoyer de lacrymo, il y aura un affrontement. Ça, c'est sûr. Ben, ce sera les un an des Gilets jaunes. On ne va pas rester comme ça à se faire arroser. Ce ne sera pas une guerre civile, mais ce ne sera pas loin. Par là, il y aura des blessés.
Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays.
Là, vous voyez, là, c'est parti pour une manif non déclarée, là. Si vous voulez pas prendre des coups, là, vaut mieux pas rester là, parce que là, ça va péter, ils vont venir, hein, direct.
Macron, le 16 novembre, t'as intérêt à te planquer à l'Elysée, d'aller dans ton bunker, dans ton frigo. Et sortez Gunbox, parce qu'on sera là et on lâchera rien.
Ça fait 52e samedi, on est là qui pleuve, qui vente, on a toujours été là.
Je m'appelle Stéphane, j'ai 21 ans. Je suis technicien, je travaille dans la clim et le chauffage. Je ne fais pas partie des pauvres, je ne fais pas partie des riches non plus. Je vais dire que je suis le français moyen. J'ai la chance de pouvoir faire un peu les activités que je veux, partir en vacances. Mais pour moi, c'est important d'être ici parce que tout le monde n'a pas ma chance. Donc je suis là pour manifester encore avec les Gilets jaunes, toujours pour les mêmes revendications, la justice sociale, la justice fiscale et la justice environnementale.
Qu'est-ce que vous pensez de la Convention citoyenne sur le climat ? Est-ce que c'est un outil intéressant pour la démocratie participative ? C'est un outil qui a été mis en place et qui doit aboutir normalement sur une proposition de loi qui doit être soumise ensuite au vote des députés ou à un référendum.
Qu'il y ait un débat par des personnes qui soient tirées au sort, qui fassent vraiment partie du peuple. Nous, on est pour. On demande aussi à avoir des assemblées citoyennes en plus de l'Assemblée nationale avec des personnes tirées au sort pour justement décider. Parce que du coup, on sait qu'il y aura toujours des gens qui penseront à l'intérêt commun et qui sauront ce que c'est d'avoir des fins de mois difficiles, d'être chef d'entreprise, d'être salarié, d'être chômeur. Donc ça pourrait permettre d'avoir une mixité sociale et idéologique très intéressante.
Cette initiative est mise en place par le gouvernement, chapeautée par des garants, notamment sociologues, membres de la société civile.
C'est quelque chose d'intéressant. Malheureusement, à chaque fois que le gouvernement fait quelque chose en disant que c'est un outil démocratique, il est retourné. On l'a vu avec le grand débat qui devait être quelque chose de très démocratique et qui s'est révélé en fait être simplement un coup de com' avant les élections européennes. Je ne suis pas sûr que ça va changer.
Moi, c'est Assiba. Je suis couturière et j'ai 53 ans. Je suis quelqu'un qui touche un petit salaire et que c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et en fait, c'est surtout pour mes enfants que je suis là, pour leur avenir. Parce que j'ai l'impression que pour eux, ça va être très dur, très très dur. J'ai l'impression que même s'ils font des études, c'est pas dit qu'ils vont y arriver. Les Gilets jaunes, pour moi, c'était un éveil. De voir qu'en fin de compte, on se fait berner. Il n'y a que le fric qui compte, c'est tout. Et malheureusement, on le prend à ceux qui n'en ont pas.
Colin, 32 ans. Ce qu'on veut, en fait, c'est une réelle égalité, une égalité des chances. On veut simplement que les choses soient logiques. Dans le sens où ceux qui font le monde, c'est aussi nous. Ceux qui travaillent, qui construisent des routes, qui construisent des maisons, ceux qui font à manger, c'est eux qui font aussi le monde. Et on a besoin aussi des gens qui n'ont pas les facultés physiques. On a besoin de prendre soin d'eux. C'est ça un vrai monde. Quand on voit les professionnels de santé en grève, quand on voit les enseignants en grève, quand on voit les cheminots en grève, que tous les services publics sont de plus en plus grignotés. Et les services publics, c'est quoi ? C'est le bien commun, ce qui nous permet de vivre agréablement. Si on nous enlève tout ça, ça va être encore pire. Qu'est-ce qu'on veut ? Aujourd'hui, le monde qu'on nous offre, c'est chacun pour soi. Et celui qui arrive à avoir plus d'argent en écrasant les autres, c'est tant mieux. Alors que ça fait un an qu'on réclame d'autres types de modèles et on a des propositions.
Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pars ton esclave au Macron, genre en gilet jaune, bébé du désert.
Beaucoup ont arrêté de manifester et sont rentrés chez eux après avoir un temps porté le gilet jaune. Dans l'Yonne, dans le petit village de Somquez, à 40 km à l'ouest d'Auxerre, Sandrine et Olivier sont chauffeurs de bus scolaires à temps partiel.
Ma vie au quotidien, c'est tous les matins, je regarde mon compte en banque, voir où j'en suis. Je regarde si mes factures sont bien passées. Une fois que tout est passé, on peut faire des courses. Et avec ce qui reste, donc ça va pas loin, hein. Ouais, on fait aller un gros plein de courses en début de mois et puis après, on se débrouille. Alors, on fait du jardin, on a des poules, on a des œufs. De temps en temps, on tue une poule. On se débrouille.
Vous avez participé au mouvement des Gilets jaunes. Comment ça s'est passé ?
À la télé, j'avais vu le premier acte du 17 novembre. Le pouvoir d'achat, on a du mal, puis on a encore de plus en plus de mal. Puis voilà, donc j'ai voulu participer et monter sur Paris le week-end d'après.
C'était la première fois que vous manifestiez ?
C'était la première fois que je manifestais, oui. J'étais impressionnée. Alors, comme je dis à mon mari souvent, on sait très bien qu'on va sur une manif, on peut se faire gazer. Par contre, je ne m'attendais pas à me faire gazer à 9h30, 10h du matin. Et après, on a continué sur Auxerre à manifester. Et puis, tout doucement, on a arrêté parce que marcher des heures et des heures et des heures avec nos problèmes de santé, ce n'était pas possible. Et le mouvement avait un petit peu dévié de ses revendications premières, donc... On manifestait pour le pouvoir d'achat, on se retrouve à faire des manifestations en soutien à tout le monde. Donc oui, pourquoi pas, on peut soutenir, mais il faut garder la même ligne qu'avant. On aurait dû rester sur le pouvoir d'achat, c'est tout. On n'aurait pas dû bouger.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir obtenu quelque chose un an après ?
Moi non, rien du tout. Rien du tout. J'ai été concernée par aucune mesure de M. Macron. Donc on n'a rien touché.
La taxe carbone, ils ont enlevé les 6-8 centimes de taxe carbone soi-disant, mais les 30% d'augmentation qu'il y avait en même temps, ils sont restés là. Alors bon, à chaque fois ils nous rabattent, oui, mais vous voyez dans les autres pays ça va augmenter. Quand on va au Luxembourg, le gasoil il est toujours entre 1,10€ et 1,20€, il fluctue réellement. Ici c'est 1,50€ à peu près. Clairement, il ne faut pas prendre les gens que pour des couillons, quoi. Voilà. Il suffit d'aller deux fois en course. L'un des plus proches, c'est Toussy, par exemple. Ça nous fait 33 km aller-retour. On fait deux fois les courses, c'est bon, quoi. 50€ à peu près de gasoil par mois. On essaye de ne pas faire plus, quoi. Parce que, de toute façon, on peut pas plus.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui?
Je pense qu'il est toujours nécessaire. Encore plus maintenant, puisque tout continue d'augmenter.
Vous êtes prête à retourner manifester, vous, pour les 1 an du mouvement?
J'aimerais bien. On manifeste pour du pouvoir d'achat. C'est nécessaire qu'on soit présent quand même.
Il n'y a rien eu d'avancée, toujours autant de taxes, même plus de taxes, par exemple, sur les factures EDF, etc. Nous, ici, en campagne, c'est infernal. Mais il faut que ça bouge, quoi.
Pour vous, qu'est-ce qui peut faire bouger le gouvernement?
Ce que j'ai vu cette année qui faisait bouger le gouvernement, c'est quand ça a pété sur les Champs-Élysées, que les gens se sont énervés et qu'ils ont annoncé le 10 des mesures après le 1er décembre, où ça a été très très violent sur les Champs. Pour moi, on devrait laisser les autres villes tranquilles et réussir à tous se réunir à Paris. Vraiment donner un seul mot d'ordre, le même jour, tout le monde.
Et rester ensuite sur les Champs-Élysées?
Ah oui, il ne faut pas partir à 18h quand on nous annonce que c'est fini, il faut rester. Alors naturellement, il y a tout ce qui va avec, hein, force de l'ordre, la LBD, la crimo, ça pique, ça fait mal. Je ne sais pas comment faudrait faire, mais faudrait pouvoir réussir à rester et pas bouger, et puis rester le plus calme possible. Et puis montrer qu'on est là, et puis voilà.
Bonjour. Enchantée. Je m'appelle Céline, je suis pompier dans les Alpes-Maritimes.
Donc là, une pièce un peu particulière.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Donc, c'est le musée des Gilets jaunes. Donc, on a nos gilets. On a nos gilets pendus, personnalisés en fonction de nos manifestations. On a... Donc en fait, celui-ci, c'est celui que j'ai fait pour le 1er mai à Paris. Donc on voit la tête de Marianne qui pleure avec le drapeau de la France. Et devant, j'ai marqué « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs ». Et c'est Robespierre donc, qui a dit cette magnifique phrase. Ensuite, j'ai des petits souvenirs, une cartouche de Palais Lacrymo. Et celui-ci, c'est celui que j'avais pour la manifestation des pompiers du 15 octobre, donc avec l'Arc de Triomphe, avec le feu sur les côtés. Et puis voilà, comme quoi, les pompiers, les hospitaliers, les gilets jaunes, tout le monde le même combat et pour la justice sociale et le respect de l'humain. Par rapport à toutes les taxes, par rapport à tout, la grande machine à laver dans laquelle se trouvent les Français actuellement. Donc ça me correspondait totalement à ce que j'attendais depuis des années. Donc je suis allée sur le péage d'Antibes le 17 novembre. Et là, je pense que de toute façon, avec ce qui s'est passé avec les pompiers, plus là, le 5 décembre, la grève nationale qui repart, on va se remettre le pied à l'étrier et retourner, parce que de toute façon, on ne peut pas abandonner. Tant qu'on n'a pas vraiment gagné quelque chose de concret pour nos enfants plus tard, on ne peut pas abandonner. Une fois qu'on verra les pompiers à côté des policiers manifestés, à côté des infirmiers, à côté de la RATP, à côté de la SNCF, enfin, à côté des médecins, à côté de tout le monde qui est en souffrance sur son lieu de travail, une fois qu'on aura vu ça, déjà, ça sera une belle victoire. Les grosses manifs des grosses villes, on a fait Paris, Toulouse, Bordeaux, Avignon, Marseille, Toulon, Nice. Je pense que tout le monde, à un moment donné de ce mouvement, a fait une pause. On laisse tomber quelques mois ou on se mobilise différemment. Moi, je sais que je suis plus mobilisée maintenant sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup tourner les informations que je récupère. C'est un travail de fond aussi. Hein. Les réseaux sociaux nous ont beaucoup servi. C'est aussi un travail important de montrer à ceux qui ne sont pas du mouvement ce qui se passe réellement. Moi, je sais que des vidéos que j'ai prises moi-même pendant les manifestations où on voyait ce qui se passait vraiment, je les ai montrées à des personnes qui n'étaient pas gilets jaunes. Je peux vous dire qu'ils adhèrent totalement à notre idée maintenant, quoi. Voilà, même s'ils ne se mobilisent pas, ils sont totalement solidaires au mouvement.
Nous partons maintenant dans l'Oise, près de Beauvais, en surplomb du rond-point d'Allonne. Une vingtaine de gilets jaunes se réunissent. Leur cabane a été détruite, mais ils ont maintenu ici un point de rendez-vous.
Il faut encore 3 paquets et c'est bon. Alors je suis Michel, gilet jaune à Allonne, Allonne-Beauvais, puisque c'est 2 communes qui se touchent. Alors là, nous sommes juste tout petit peu au-dessus du rond-point d'Allonne, où a commencé le mouvement pour les gilets jaunes d'Allonne.
Vous êtes revenu dans la mobilisation ?
Alors, on n'a jamais quitté, comme beaucoup de gens. Hein. Là, les gens que vous voyez, c'est des gens qui sont là depuis le départ, depuis le 17 novembre. Là, vous avez affaire à des, on va dire, à des fidèles du rond-point.
Ben, je m'appelle Bibi Changlois, j'habite à Brel, 59 ans. Et je suis le mouvement en rapport que Macron m'a mis au chômage. Il a supprimé les contrats aidés dans tous les collèges, tous les lycées. Là, j'ai retrouvé un travail rapport à Pôle emploi, mais au bout de 10 mois. Donc pendant ces 10 mois-là, quand on a tout payé les factures, il faut compter sur les doigts pour aller chercher à manger. Hein.
J'ai 52 ans, je suis gardienne d'immeuble, j'habite à Beauvais. Longtemps chez moi, toute seule, je me disais, mais quand est-ce que les gens vont se révolter ? Et quand j'ai vu sur Facebook qu'un routier appelait les gens à tous se réunir dans la rue...
Éric Drouet,
tout à fait. Pour le 17 novembre 2018, je me suis dit, mais là, il faut y aller. Et le combat, moi, je pense qu'on en a pour des années. Je me dis qu'on a ouvert une page de l'histoire. Il ne fallait surtout pas la louper parce que ça fait quand même un an qu'on est dans la rue. On ne peut plus se serrer la ceinture pour quelques milliardaires de la planète. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout.
Serge, Gilets jaunes de Chambly, Méru et alentours. Donc nous, on est sur des problèmes locaux, genre la fermeture de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise, de certains services, qui est catastrophe pour la région. On mène un combat depuis très très longtemps là-dessus. On était au ministère de la Santé il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc on a été reçu par le représentant du ministre, tout ça et tout. Beaucoup d'enfumage. Nous, on travaille avec le comité de défense de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise.
Les ronds-points nous permettent d'abord de nous réunir, de discuter entre nous, de savoir les actions que nous allons faire. Vous avez vu, on a mis pas mal de panneaux, notamment contre la privatisation d'ADP.
Monsieur le maire, bonjour.
Ça va ?
Vous allez bien ?
Alors, pour commencer, ça y est ?
Ah, on n'a jamais arrêté. On
continue. Mais... moins de présence à un moment donné. Hein.
Oui, alors, on fait deux permanences, le mardi et le vendredi, 13h, 17h. Par rapport au mouvement du départ, effectivement, il y a un petit peu moins de gens. Mais les gens qui restent, qui sont encore présents, sont des gens beaucoup plus motivés, beaucoup plus décidés, et surtout avec des connaissances totalement différentes de l'année dernière. En un an, on a tous l'impression d'avoir pris une maturité, que ce soit... Alors, on n'aime pas ce terme, mais on va dire politique quand même. On a eu le temps de creuser tous les problèmes, c'est-à-dire que la première fois quand on est descendu, c'était simplement pour le carburant. Et c'est là qu'on voit que des gens qui ont fait des hautes études politiques ne sont pas forcément fins, parce qu'ils auraient cédé à ce moment-là, ça aurait peut-être été différent, ça aurait peut-être été mieux. Aujourd'hui, les yeux se sont ouverts sur tout. On ne peut pas rester dans ce système encore une fois, même si demain ils disent « Allez, vous êtes gentils, bon, vous avez eu raison de râler, on vous détaxe ceci, cela. » Est-ce qu'on aura changé la racine du mal ? Non ! Donc il faut changer tout ça, en profondeur. Et c'est en profondeur, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et s'il continue, oui, on va créer un marché parallèle s'il le faut. On va devenir un monde parallèle au monde qu'ils veulent nous imposer. On est capable de le faire. Nous, on a déjà créé une association, et l'association a un début bien précis dans le domaine de l'agriculture et tout ça. Voilà, on a des choses à travailler. Donc oui, on va le faire. S'ils veulent nous obliger à vivre en marge 2, mais si on vit en marge 2, ils n'auront plus notre argent. Il faudra qu'ils se débrouillent. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Oh, on se retrouve souvent une vingtaine. Hein.
Ah ouais, ouais,
on se retrouve une vingtaine.
C'est la partie comme l'ancienne. Vous partez à la charge
Oui, on a pas mal d'actions. On a pas mal d'actions. Là, tout à l'heure, on va tracter un peu. Là.
D'accord. Donc, à vous bientôt. Venez me voir pour une réunion pour, avec nous
oui, pour une réunion. Puis pour ADP, on va essayer de contacter. Parce que sur les villes, on s'est aperçu que sur Beauvais, il n'y avait pas énormément de signatures. Donc, on va essayer de rencontrer tous les maires. Puis voir ce qu'on peut faire. Sinon, on peut mettre en place un système de permanence. Bien sûr, la possibilité de l'inscription au RIP. C'est-à-dire tout simplement demander la possibilité de faire le référendum. Initiative partagée pour éventuellement dire non à la privatisation d'ADP. Là, on est à 900 000 quasiment. Signature, pardon. Ils veulent pas qu'on l'ait, mais on trouve d'autres solutions. Le gilet jaune est coriace.
En tout cas, je vous souhaite bon courage.
Merci.
Et puis à bientôt. Les amis, tout le monde est prêt ? On prend les tracts ? On y va alors. On prend ça dans la voiture, puis on y va. Messieurs, dames, bonjour.
Bravo, bonne chance.
Merci, merci à vous. Bonne journée à vous.
Qu'est-ce que vous allez proposer là sur votre acte ? Quel est le message ?
Alors le tract, c'est surtout pour expliquer toutes les avancées qu'ont réussi en vérité à obtenir les Gilets jaunes. Par exemple, la fameuse prime qu'ils ont osé de qualifier de prime Macron. Macron, on a donné ça que pour calmer les jambes sous l'effet Gilets jaunes. Donc c'est plutôt la prime Gilets jaunes qu'on devrait appeler ça au moins. Il y a aussi la CSG, une partie de la CSG qu'il avait volée aux retraités. Je dis bien volée parce que quand vous avez cotisé toute votre vie, c'est votre argent. Si le RIP il a été mis en place... pour ADP, c'est aussi parce qu'ils se disent qu'il faut essayer de faire certaines choses. référendum d'initiative partagée pour les aéroports de Paris. C'est pour montrer que le mouvement a apporté des choses, et c'est aussi pour expliquer que, hélas, si de temps en temps il y a de la violence, les gilets jaunes, il est possible qu'il y en a qui passent, mais les trois quarts des violences sont quand même des violences policières, qu'ils veulent le reconnaître ou pas. Et ça explique aussi, à chaque fois que quelque chose a été gagné, il a fallu une épreuve de force. Pourquoi ? Bah parce que les gens qui détiennent les choses ne veulent pas les perdre. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Bonne journée à vous.
Merci, bon courage.
Merci. Bonjour, pardon. Excusez-moi, chef.
Oh, chef, non. Si j'étais chef, je ne serais pas là.
Ouais, si, on a des chefs ici aussi. Hein.
Un ouvrier qui veut le tourner, un chef. Attention.
Bonjour, monsieur.
J'ai une question à vous poser.
Si je peux répondre, ça sera avec plaisir.
Vous faites toujours les gilets jaunes ?
Oui, toujours, oui.
Vous vous indiquez pourquoi ?
Toujours pareil.
Ah bon ? Et si un jour Mme Le Pen a passé au pouvoir, vous croyez que vous allez continuer à faire ça ?
Mais très personnellement, je ne vous ai jamais dit qu'on était avec Mme Le Pen.
Non, mais vous y allez tout droit. Je peux vous le dire. Allez, gardez votre papier.
Si
vous voyez,
vous
je suis retraité, je vais avoir 70 ans.
Ouais.
Vous savez combien que je gagne de retraite ?
Non.
Je fais à peine 1 500 € par mois. Je vis très bien, en faisant très attention. Et là, je ne veux pas gueuler, je ne fais pas comme vous en m'habillant en gilet jaune. Hein.
Mais on ne gueule pas, vous voyez, comment on est calme.
Allez, au revoir.
Au revoir, monsieur. Bonne journée à vous.
Vous savez que foutre la merde, c'est tout.
Si vous voulez, monsieur. La démocratie, c'est s'exprimer. D'accord, pas d'accord, les gens ont le droit de s'exprimer, ils s'expriment.
Bonjour, madame.
Messieurs, dames, bonjour.
Merci. Merci beaucoup, bon courage.
Je vous comprends, mais moi, je ne me mettrai pas un rond-point pour défendre quelque chose. C'est dans les urnes que ça va se passer. Donc, au bout d'un moment, on voit ce qui se passe, on n'est pas fou non plus. C'est pas parce qu'on n'est pas sur les ronds-points. Comme vous, qu'on voit rien. Et au contraire, là, comme je le dis, on attend un deuxième enfant, on subit, on n'a pas le choix, c'est très dur. On est obligé de vivre avec, dans tous les cas. Et on ne peut pas se bagarrer, on ne peut rien faire. C'est au-dessus qu'ils ont tous les pouvoirs. Au bout d'un moment, il faut lâcher. Hein. On ne gagnera rien du tout, sauf aux prochaines présidentielles, peut-être.
Mais on peut les obliger à bouger. Mais c'est le nombre qui les fera bouger.
Bonjour, moi c'est Delphine, je suis gilet jaune à Sens, et puis je suis mère au foyer de 6 enfants. On fait partie de la classe moyenne et on n'y arrive plus. Celle qui trinque le plus au niveau des classes, moi je trouve, c'est mon opinion, c'est la classe moyenne. Puisque moi je ne bénéficie pas d'aide quoi que ce soit, même avec 6 enfants, je peux vous dire j'ai 0. Et nous, là on n'a plus que nos yeux pour pleurer, donc c'est pour ça qu'on est tous les samedis sur nos ronds-points, ou certains à Paris, on ne lâchera pas tant que maintenant le gouvernement doit tomber. Nos revendications aujourd'hui ne sont plus pouvoir manger ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est la principale revendication, c'est faire tomber le gouvernement.
Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron et des 17 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour répondre à la crise ?
Ça servait à quoi, puisque je n'en ai pas vu la couleur ? Moi, j'ai rien vu de passé. J'ai vu que des dépenses. Soi-disant, ça a profité pour les personnes qui touchaient le SMIC. Mais à savoir que je connais une personne qui a eu 100 € de plus, mais on lui a retiré 80 € d'APL. Donc elle a gagné quoi ? 20 €. On n'est pas là pour faire la manche. Le seul bien qui nous a fait Macron, c'est de se réunir dehors et de pouvoir apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, quand on a besoin d'un coup de main pour... on a une tuile qui est tombée du toit ou quoi que ce soit, on aura quelqu'un qui sera là pour nous aider. Et ça, je trouve ça formidable. Je pense que ça a permis de faire grandir pas mal de personnes de ce côté-là.
Alors, je suis Fred Robin, gilet jaune à Sens et satellite partout ailleurs. Ça m'a relié à d'autres gens dans la même situation que moi en plus. D'autres idéologies aussi. Et on se reconnaît tous et c'est là que ça nous lie, quoi. On lâchera rien.
Qu'est-ce que vous attendez des 1 an de mobilisation des gilets jaunes? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'anniversaire des 1 an du 17 novembre 2018?
Je vais monter dès le 16, je serai à Paris. Peut-être que j'aurai mon duvet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le 17, c'est un blocage. Alors peut-être que je ne serai pas à Paris. Il y a eu une sorte d'essoufflement. L'après 16 mars, il y a eu un changement d'organisation de la police. Et là, il y a eu, on va parler de violence policière, carrément. Tous ces éborgnés, ces femmes mutilées, déformé du visage, une mâchoire à reconstituer. Moi, j'ai parlé avec un jeune homme qui a perdu une main à cause d'une grenade de GLF F4 qui a pété vers lui et il a perdu sa main. C'est horrible. Là, comment il va faire ?
2 policiers seront jugés en correctionnel à Paris pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. En tout, l'IGPN, la police des polices, a été saisie de 313 enquêtes. 2/3 d'entre elles ont été transmises au parquet. À l'heure actuelle, 54 ont été classés sans suite, faute de preuves suffisantes, alimentant encore un profond sentiment d'injustice parmi les Gilets jaunes.
Eh bien, donc je suis David Dufresne, documentariste, écrivain, et je me suis retrouvé à signaler sur mon compte Twitter tous les manquements possibles à déontologie policière, puisque ça existe, il y a un code de déontologie, autour des violences faites aux Gilets jaunes par les forces de l'ordre.
Comment vous avez travaillé ?
J'ai travaillé dans un effet de sidération d'abord devant les violences policières. Donc j'ai commencé à les répercuter, à dire « Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. » Numéro 1, 2, 3. 10 mois plus tard, j'en suis arrivé à 860. Et au fond, ça s'est transformé en lutte, on pourrait dire, contre le déni politique. Et puis, pour aller très vite, à un moment donné, des instances comme le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU, disent à la France, ça va pas. Et la France dit, je m'en moque. Et la France continue. Reste que si on croit en la justice, eh bien, il y aura des procès. Alors, ils vont prendre des années. Mais ces procès seront extrêmement intéressants parce qu'on va comprendre l'état d'esprit des policiers, on va comprendre leurs conditions de travail, on va comprendre les ordres, les consignes, la doctrine, les armes employées. Toutes ces choses-là doivent absolument être rendues publiques.
Jean-Michel Fauvert, je suis député à La République En Marche.
Ancien patron du RAID ?
Ancien patron du RAID aussi, ancien policier, ancien patron du RAID. Toute la manière de faire des nouveaux manifestants était inédite. On était dans de l'hyperviolence. Le fait de ne pas déclarer les manifestations, le fait d'être agressif, non seulement sur les forces de l'ordre, mais sur les passants, sur les commerçants, le fait d'être agressif sur les représentants élus, en particulier les députés, ça, ce sont des choses inédites. La population aussi doit s'adapter à ça. La population entière doit savoir que participer à ce type de manifestation-là représentera, de toute façon, un danger.
Il n'y a pas un problème, quand même, sur le maintien de l'ordre dans ces manifestations de Gilets jaunes ?
On a une justice qui contrôle l'action de la police et gendarmerie dans ce domaine-là. Donc il faut attendre que la justice se prononce là-dessus, plutôt que de se prononcer immédiatement sur une espèce de vox populi qui est relayé par un certain nombre de relayeurs d'opinion qui vont tous dans le même sens. Donc face à ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est attendre la décision de la justice. Attendre. Et on verra.
En marge des ronds-points et des mobilisations du samedi, certains coordonnent des actions contre des entreprises, comme le géant de la vente en ligne Amazon.
Je suis Corinne, gilet jaune de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous sommes à la maison de la citoyenneté des associations à Morsang-sur-Orge, avec des représentants des mouvements écologistes, des gilets jaunes, de la Croix-Blanche, des représentants du mouvement Attaque. La réunion, ça va être de créer un collectif Amazon, puisqu'Amazon cristallise notamment tout ce qui représente pour nous l'impunité fiscale, un modèle social que nous critiquons fortement et un comportement environnemental que nous critiquons aussi. Nous allons essayer de nous retrouver sur ces thématiques et créer une convergence.
Alors moi aussi, je suis gilet jaune. Il faut aller dans les institutions, puisqu'elles sont là. J'y crois pas, hein, parce que avec les cyniques qui nous gouvernent, les trucs et tout, on voit pas très bien comment on va s'en sortir par là. Enfin bon. Amazon, c'est une destruction sociale, c'est une destruction écologique, c'est une destruction financière, enfin, je veux dire, fiscale. Je veux dire, voilà, il n'y a même plus de démonstration à faire. L'effet est entendu, le capitalisme néolibéral est un crime contre l'humanité. Point. Voilà. Donc il faut changer ça. Et puis, c'est tout.
Dans plusieurs villes, les ronds-points ont donné lieu à des actions sociales, nées des liens soudés dans la mobilisation. Plusieurs maraudes de gilets jaunes ont été créées, dont certaines se poursuivent un an après.
Allez, on repart là, tous ensemble, là. On est là, nous on est là, même si ma lui n'aime pas, nous on est là.
Il y a une sandwich, un peu une banane et...
Ça c'est du poulet ou c'est du jambon ?
Il n'y a pas de jambon.
Il n'y a pas de jambon ?
Non.
Merci, voilà. Je vous remercie.
Bonne
merci.
Soirée.
Moi, je m'appelle Bakita de Nice. Alors, l'historique, nous étions donc à l'origine des Gilets jaunes du rond-point de Saint-Isidore de Nice. Il y a eu un élan de solidarité venant de la part de la population de Nice incroyable. C'est-à-dire que les gens sortaient de Carrefour et déposaient des sacs entiers de nourriture. On s'est rendu compte qu'il y en avait trop. Et il y a Pascal du rond-point et Mimi qui ont donc décidé, plutôt que de perdre cette nourriture, d'aller la distribuer en maraude.
On vous appelle Mimi ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis artiste tatoueuse. Moi, je suis gilet jaune depuis le début, tout simplement parce que je suis avant tout une citoyenne en colère au vu de la conjoncture actuelle.
Et c'est la première fois que vous vous engagez comme ça dans une action ?
Je ne l'ai jamais fait avant, mais je le fais maintenant. Et ça va bientôt faire un an. Puis quand on voit en fait l'engouement qu'il y a, les rencontres absolument merveilleuses chez les sans domicile fixe ou même les gens qui viennent participer à la maraude, on est tous là avec le cœur et non pas ce que peuvent penser tous les autres. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Voilà.
Les gilets jaunes, c'est pas que des manifestations, c'est pas que des revendications, c'est aussi des actions. Ben, simplement parce que ce qu'on revendique avant tout, c'est remplir nos frigos. Ben, nous, on essaie déjà dans un premier temps de remplir juste des petits ventres une fois par semaine.
La plupart des dons qu'on reçoit, c'est des gens qui sont partout en France et qui nous regardent.
Donc,
et
ils vous regardent sur Internet, oui, c'est-à-dire que vous diffusez en direct.
C'est le live de Paquita.
On programme la maraude suivante. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. On vous embrasse.
Un an après le début du mouvement, une partie des Gilets jaunes espère toujours se structurer au niveau national. C'est le cas notamment à travers l'Assemblée des Assemblées.
Merci d'être venu à Montpellier, ça fait chaud au cœur. Sachez qu'il y a à peu près 200 groupes représentés.
Je m'appelle Christophe Chapuis, j'ai 42 ans et je fais partie des Gilets jaunes de Montpellier qui accueillent cette 4e Assemblée des Assemblées aujourd'hui. Alors là, on se trouve dans l'ancien musée de l'agriculture. C'est un musée désaffecté qu'on a occupé le temps de l'Assemblée des Assemblées parce qu'on n'a pas réussi justement à trouver par les moyens légaux, on va dire, de lieux pour accueillir 5 à 600 personnes. Alors c'est un grand espace avec une immense table circulaire qui servait justement à l'exposition du musée. On y voit aussi une grande planète Terre, on va dire, avec des gilets jaunes qui sont peints dessus. Pour montrer justement tous les endroits dans le monde actuellement où il y a des révoltes populaires qui essayent d'influer sur des systèmes qui leur font du mal. On pense au Chili, mais même à Hong Kong, au Liban. En fait, des problématiques qui peuvent être très contextuelles, mais on note quand même que l'histoire du pouvoir d'achat, les taxes et surtout l'injustice, d'une manière générale, c'est très mal vécu et c'est plus du tout accepté par les populations.
Quel est le projet de l'Assemblée des Assemblées ? Ça sert à quoi ?
Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une structuration la plus démocratique possible, de ne pas créer d'échelon supérieur à la parole locale, mais tout en trouvant des moyens de la coordonner avec les autres pour lui donner plus d'outils, plus de moyens d'action. Et l'Assemblée des Assemblées, c'est ni plus ni moins qu'un rendez-vous de 3 jours où des participants gilets jaunes de toute la France peuvent s'inscrire, venir et discuter de différentes thématiques et aussi créer du lien, se soutenir les uns les autres. C'est un moment de partage, en fait. C'est à l'initiative de personnes qui craignaient un petit peu que le mouvement soit récupéré.
Blanche, Gilets jaunes de Montpellier. Nous, par exemple, on a été mandatés par nos ronds-points pour les représenter lors de ces assemblées. Tout ce qui va être mis au vote va être envoyé à chaque groupe. Et c'est les groupes qui vont voter sur chaque rond-point, chaque place, chaque assemblée. Et tout ça va remonter à l'Assemblée des Assemblées qui va trier tous les votes, etc.
Et qu'est-ce qui en sortira une fois que les votes auront été triés ?
En fait, c'est sur avoir des actions communes, un discours commun qui nous rapproche tous, tout en restant des individus avec nos particularités, nos divergences, mais qu'on soit tous d'une même voix.
Il y a beaucoup moins de gilets jaunes dans les rues, il y a quelques gilets jaunes qui retournent sur des ronds-points de façon ponctuelle, mais malgré tout, voilà, on est sur un moment, un an après, où beaucoup moins de gens se mobilisent. Est-ce que ça peut repartir ? Avec les 1 an du mouvement, et comment, selon vous ?
Les ronds-points, on nous déloge. Aujourd'hui, être sur un rond-point, c'est 135 euros d'amende, probablement une garde à vue, être inquiété par la police. Quand on a un gouvernement qui met autant de moyens contre sa propre population pour l'invisibiliser, voilà. Effectivement, au bout d'un moment, sur la durée, c'est compliqué. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement est toujours extrêmement vivace. Les personnes qui sont gilets jaunes, tant que leurs problèmes ne sont pas réglés, ils seront là pour dire qu'ils ont ces problèmes-là. Ce mouvement, il est rural. Donc les personnes n'ont plus spécialement les moyens d'aller faire des grandes manifestations à Paris tous les week-ends ou une fois par mois. Ils reviennent au plus proche, dans la ruralité, et ils continuent le travail. Simplement, les médias ne sont pas là pour le voir. Même l'État lui-même n'est pas là pour le voir. Mais en ce moment, on assiste à une diffusion qui va être peut-être un petit peu plus lente du message qui est porté par les Gilets jaunes. Et on pense que ces graines qui sont plantées, elles vont germer. Et peut-être qu'à ce moment-là, le soutien populaire sera massif.
Alors moi, je suis Gérard, 63 ans, retraité, et je suis dans le mouvement depuis plus d'un an, parce que je suis depuis octobre.
Donc là, on se retrouve à l'Assemblée des Assemblées, à Montpellier.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça se passe ?
J'ai pas l'impression qu'on avance comme il faudrait. Il y a une mauvaise coordination au niveau national. Ça, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de passer toute ma retraite à faire ça, quoi. C'est surtout ça, hein.
Parce que là, pour l'instant, ça débouche pas sur quelque chose d'assez concret ?
Non, non, pour l'instant, non, ça débouche pas.
Comment ça se passe chez vous, justement, la mobilisation ?
Ça s'est éparpillé dans tous les sens, il y en a plein qui ont lâché. On a essayé de faire une convergence de tout ça, mais ça n'a pas marché. Moi, je pense que ça va être ma dernière assemblée des assemblées. J'espère qu'il va se passer quelque chose là dans les semaines qui viennent. Et s'il ne se passe rien, bah, je vais m'occuper de ma retraite, de ma petite famille, et suivre de loin, et on verra à ce moment-là.
L'Assemblée des Assemblées lance un appel à se joindre à la mobilisation du 5 décembre lancée par plusieurs syndicats contre la réforme des retraites. Un appel à la convergence en se rapprochant des syndicalistes et non des centrales syndicales. La participation politique aussi est débattue. Après l'échec des Gilets jaunes aux élections européennes, les élections municipales se profilent et mettent à nouveau sur la table la question de la représentativité.
Je m'appelle Samuel, je suis agriculteur dans l'Hérault. Gilets jaunes depuis le 17 décembre et là on fait partie des gens qui organisent l'Assemblée des Assemblées.
Par rapport au municipal, qu'est-ce qui a été décidé ici ou qu'est-ce qui a été mis en avant dans les propositions de l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes ?
Ce qui a été mis en avant, c'est qu'il n'y a absolument aucun consensus sur le fait de se présenter ou de ne pas se présenter au municipal. Par contre, tout le monde s'entend sur la nécessité de construire un contre-pouvoir populaire avec l'ensemble des secteurs de mobilisation. Là où il y a un point de désaccord, c'est qu'il y a des personnes qui disent que ce pouvoir populaire, il est compatible avec le fait de se présenter au municipal. Et il y a des gens qui pensent que la construction de ce pouvoir populaire, il faut au contraire qu'il s'autonomise au maximum des méthodes, de la loi, de l'institution, et pour eux, de la reproduction du même, c'est-à-dire de la reproduction entre gouvernants et gouvernés.
Donc je m'appelle Jean Mandrigues, j'ai 40 ans, j'étais en reconversion plomberie et je fais partie du mouvement des Gilets jaunes en tant que témoin et acteur du mouvement.
L'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes s'est tenue à Montpellier et donc il n'y avait présent aucun des Gilets jaunes médiatiques dont vous faites partie. Donc Priscilla Dudowski, qui est à l'origine de la pétition sur l'augmentation du prix du carburant, n'était pas présent, Éric Drouet non plus.
Déjà, il n'y a pas de leader. Tous ceux qui parlent de leader, c'est ceux qui n'en veulent pas. Ceux qui ont conscience qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas de représentativité humaine d'un mouvement. On les a aussi dans le mouvement. Donc, il y a du leadership. Il y a forcément des gens qui savent emmener. D'accord ? Mais il n'y a pas de leader. Maintenant, concernant l'ADA...
L'Assemblée des Assemblées ?
J'avais été à la troisième, qui était à Saint-Nazaire. On n'était pas les bienvenus parce qu'on était justement des figures. Je trouve ça regrettable, surtout dans ce genre de réunion qui se veut avec des décisions à l'horizontale. Qui a décidé que je n'avais pas le droit de venir ? Vous avez en face de vous la personne qui a fait le tour de la France, qui a discuté avec l'ensemble des groupes, l'ensemble des mouvances qui peuvent exister aussi au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a pas que l'ADA. Vous avez les constituants, vous avez ceux qui veulent simplement manger à la fin du mois, vous avez les violents, ceux qui ont des méthodologies de combat différentes de la mienne, pacifistes ou pas. Je n'ai jamais jugé personne, simplement remonter l'information, essayer de condenser les choses positives et pouvoir les retourner sur la manifestation. Après, chacun est responsable de la décision qu'il prend selon les informations qu'il a reçues. Et puis il y a aussi toute cette adversité qu'on peut subir au sein du mouvement des Gilets jaunes parce que les gens ne sont pas forcément d'accord. Et puis vous avez toute cette pression, ce cyberharcèlement que je peux subir tous les jours avec à la fois des menaces de mort, des insultes. Quand on se moque de moi parce que j'ai perdu un œil et qu'on s'amuse à mettre des images de cyclopes sur Internet, bon, ça me fait mal, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'au sein des mouvements des Gilets jaunes, il y a d'autres blessés, 25 personnes qui ont perdu un œil. Et ces gens-là, ils le vivent très très mal. Et quand ils me touchent, moi, ils touchent aussi toutes les personnes handicapées aujourd'hui en France.
À la veille des un an de la première manifestation des Gilets jaunes, dans quel état se trouve le mouvement aujourd'hui, selon vous ?
Si je peux employer un jeu de mots, manifestement parlant, il y a forcément moins de présence aujourd'hui dans la rue. Maintenant, je peux vous garantir, de par les tours de France que j'ai pu faire, et le mouvement est bien là. La braise est encore en train de couver. En tout cas, le mouvement n'est pas fini en lui-même. Pour moi, les Français, il y a un an, auparavant, c'était des râleurs. Ça râle entre soi, ça râle devant sa télé, d'accord, qui n'apporte pas de solution. Aujourd'hui, les Français sont devenus des contestataires. Et je pense qu'il serait important de se concentrer là-dessus, parce qu'on propose de belles choses et qu'il y a de belles idées, parce que ceux qui marchent dans la rue aujourd'hui sont aussi ceux qui construisent la France, beaucoup plus que nos politiques.
Gilets jaunes, un an après, les mutations d'une contestation. Un reportage de Sophie Delpont avec Jean-François Braun à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne, et Laurent Jean-Pierre, professeur de sciences politiques à Paris 8. Alors, vous venez d'entendre Jérôme Rodriguez. Selon lui, les Français étaient des râleurs et sont devenus des contestataires. Est-ce que vous partagez cette analyse, Arnaud Benedetti, et comment comprendre ce mot de contestataire, selon vous ?
Écoutez, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord une dynamique sociale qui vient de très loin, c'est-à-dire des classes moyennes et des classes populaires qui se sentent, pour certaines d'entre elles, paupérisées, d'autres prolétarisées, et qui, derrière une situation économique qui est très souvent fragilisée, se sentent aussi dépossédées politiquement. Donc c'est cette dynamique sociale qui a porté cette forme de mobilisation inédite. Mais c'est une forme de mobilisation inédite qui a pu vraisemblablement voir le jour parce que elle se double d'une transformation finalement de ce que l'on appelle l'espace public. Globalement, si ces dynamiques sociales ont pu à un moment donné advenir et avoir une visibilité à la fois politique et médiatique, c'est parce que tout simplement ils sont parvenus à se mobiliser à travers, en dehors plutôt, des cadres de mobilisation classiques. Et c'est ça qui, quand même, a d'abord frappé les observateurs, dans un premier temps. Et deuxièmement, ils l'ont fait parce que, tout simplement, aujourd'hui, nous avons un espace public qui permet une forme de désintermédiation. Globalement, je résume, leur mobilisation, elle s'est faite parce que ces gens se sont reconnus, à un moment donné, avec une même préoccupation, à l'origine, la préoccupation initiale, c'est-à-dire la hausse de la taxe carbone, dans des zones où le besoin d'un véhicule est absolument vital pour, à la fois, aller au travail ou faire ses courses. Ces gens se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux, explicitement. Et ils ont pu ensuite s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Donc c'est cette conjugaison à la fois de dynamiques sociales qui viennent de très loin, d'un sentiment de crise de la représentation politique, et ce nouvel espace public qui ont donné forme à un mouvement social qui est tout à fait inédit, qui constitue un véritable événement, à mon sens, dans l'histoire politique récente, et dont on mesure qu'il est porteur, en effet, de quelque chose de nouveau dans l'espace politique. Et on voit bien, d'ailleurs, les difficultés qu'ont eu les politiques à la fois, d'une certaine manière, s'articuler à ce mouvement, et la façon dont les commentateurs et les observateurs ont eu des difficultés à, finalement, décrypter et à lire ce mouvement, montre bien qu'il y a quelque chose d'irréductible dans ce moment que nous avons vécu, qui est le moment des Gilets jaunes.
Alors, on a entendu la fatigue, la lassitude de certains, hein, mais d'autres, Laurent Jean-Pierre, veulent devenir acteurs de leur vie. On entend cette défiance persistante à l'égard du pouvoir, toujours cette notion de « il faudrait en fait tout mettre à terre, construire un autre système ».
Oui, alors bon, c'est pas toute la parole jaune, hein. Ce qui est intéressant dans le documentaire,
c'est que la parole est multiple.
Voilà, hein, c'est justement qu'on a accès à une multiplicité de paroles et que justement c'est le mouvement n'est plus parlé. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a voulu justement parler et pas être parlé, hein, et pas être représenté, refuser les porte-paroles, etc. Bon, ça a été dit.
Mais il y a quand même une certaine radicalité dans les paroles.
Il y a une radicalité indéniablement, mais justement qui est liée à deux choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des demandes économiques qui sont tout à fait audibles et qui correspondent à des programmes politiques qui pouvaient exister il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui ont été défaits dans les dernières décennies. Par exemple, l'indexation des salaires à l'inflation ou des retraites à l'inflation, c'est pas quelque chose d'exorbitant comme demande. Mais et à côté de ça, il y a effectivement un des Gilets jaunes qu'on vient d'entendre, hein, qui dit voilà, nous on pourrait créer un marché parallèle. D'ailleurs, on s'organise déjà pour en réalité avoir des circuits courts alimentaires, réfléchir à un approvisionnement agricole parallèle. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets qui ont été aussi d'ailleurs discutés à l'Assemblée des Assemblées sont des projets de ce type, c'est-à-dire des projets en fait d'auto-organisation collective, parce que ce qui a été dit sur l'espace public est très vrai, mais il y a en fait un espace public, on pourrait dire premier ou primaire, qui a été investi, c'est effectivement le rond-point, mais qui en fait, bon, qui pourrait être ailleurs, hein, qui pourrait être une salle, bon, il n'y a pas toujours eu de salle pour les Gilets jaunes, mais qui est effectivement recréer du lien, casser des frontières sociales, des frontières symboliques, des isolements qui étaient très puissants dans ces zones périurbaines ou infra-urbaines qui ont été décrites, et donc c'est à partir de ça qu'il y a une demande qui s'est exprimée, une demande demande, je dirais, en acte et une demande en discours, c'est-à-dire une demande en fait de démocratie directe qui a été pratiquée, hein, pas qui a pas été simplement fantasmée, mais qui a été pratiquée sur les ronds-points. Et donc du coup, cette demande, en fait, il y a eu aucune réponse à cette demande. Alors on peut avoir des réponses institutionnelles, mais il n'y a pas eu réellement de réponse ni du côté des organisations politiques ni du côté des pouvoirs publics à cette demande d'approfondissement de la démocratie. Et je crois que pour cette raison, la colère va durer au-delà des raisons socio-économiques qui sont en partie ou pas, jugulées par les mesures qui ont été prises.
Alors, les Gilets jaunes envisagent de se joindre à la journée de mobilisation du 5 décembre, journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des traites. C'est en tout cas ce qui était prévu jusque-là. Alors, les Gilets jaunes, ils étaient plutôt méfiants vis-à-vis des syndicats jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut parler de convergence, Arnaud Benedetti ?
Alors, ils étaient méfiants par rapport aux syndicats, comme ils étaient méfiants par rapport aux partis politiques, parce que pour un grand nombre d'entre eux, ce sont des gens dont c'est le premier engagement politique ou social. Donc ça, c'est une caractéristique qui est, à mon avis, une caractéristique fondamentale de ce mouvement, qui se traduit par une forme de repolitisation, ou de parfois de tout simplement de politisation, de gens qui étaient, d'une certaine manière, dans une relation assez distanciée par rapport à la chose publique. Donc cette méfiance, elle était naturelle chez eux, parce que tout simplement, ils ne se sentaient pas tout simplement représentés par des instances et des porte-paroles auxquelles ils dénient finalement une forme d'efficacité pour porter leur message et pour porter leurs revendications, et parfois dont ils considèrent qu'ils sont parfois les alliés même d'un pouvoir qu'ils veulent combattre.
Alors, est-ce que ça a un petit peu
Alors,
bougé,
ça peut évoluer en effet, parce que la réalité, à un moment donné, c'est que le rapport de force politique peut, disons, faire advenir une certaine forme de réal politique pour les Gilets jaunes. Ils considèrent aujourd'hui vraisemblablement que leur mouvement a perdu une forme de sa force, qui était la force liée encore au caractère inédit aussi de sa communication. Le mouvement s'est banalisé samedi après samedi, donc ils ont eu du mal, après avoir créé la surprise sur le plan de la communication politique, à se réinventer. Donc ils voient vraisemblablement, pour un certain nombre d'entre eux, et encore il faudrait moduler parce que tous n'ont pas le même niveau de maturité politique, ou en tout cas d'implication politique, mais ils voient vraisemblablement dans la séquence que nous sommes en train de traverser avec une fonction publique, parce que la fonction publique était assez peu présente dans le mouvement. Quand on regarde le mouvement, ce sont des gens qui sont des actifs, soit des salariés du privé, soit des indépendants. Donc c'est pas tout à fait la même sociologie que la sociologie des syndicats. Donc
même s'ils défendent les services publics.
Alors bien sûr,
mais certains sont aussi syndiqués parmi les Gilets jaunes.
Ils défendent d'autant plus les services publics ils se considèrent dans des zones, d'ailleurs avec raison pour certains d'entre eux, où l'État s'est retiré. Mais en effet, ils voient en tout cas dans la fenêtre, j'allais dire, de tir politique que nous sommes en train de traverser, peut-être une possibilité d'articulation avec des organisations qui sont en mesure, en tout cas, de mobiliser avec notamment les effectifs des syndicats.
Et là, Laurent Jean-Pierre, l'objectif n'est pas tellement de rester sur les ronds-points, mais plutôt cap sur Paris. Hein. C'est vraiment la capitale qui est visée, le lieu du pouvoir, le symbole du pouvoir qu'il déteste tant.
Oui, alors on a entendu au début du reportage, effectivement, toute cette espérance, quoi, là pour le coup probablement exorbitante, quoi, sur la possibilité de saisir les palais du pouvoir. Bon, mais c'est une fraction très très particulière du mouvement, hein. Ce sont ceux qui sont restés, qui ont fait les 52 actes et qui vont faire le 53e demain, et donc c'est quand même une fraction tout à fait particulière. On a vu que c'est un mouvement très hétérogène, y compris dans ses attentes, et donc c'est vrai qu'il a été confronté très tôt à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le choix entre poursuivre une logique autonome, une logique propre, hein, qui était fidèle en quelque sorte à sa constitution, des primo-manifestants, des gens qui avaient jamais fait de politique avant, des gens qui étaient très sceptiques vis-à-vis des organisations, vis-à-vis de l'encadrement politique, de l'encadrement syndical, des bureaucraties. Et donc, effectivement, si on suit cette logique, qui avait une demande de démocratie directe fort, à côté des demandes en termes de pouvoir d'achat, et donc si on suit cette logique, effectivement, il faut inventer en quelque sorte toujours réinventer ces formes d'action, y compris d'ailleurs au prix parfois d'abandonner les ronds-points, et bon là, ils ont été délogés, et d'abandonner aussi les actes 52e et 53e, et de trouver d'autres formes, et on en a un peu parlé avec Assemblée des Assemblées, lobby citoyen, engagement civil, organisation, engagement social local, etc., etc. Donc ça, c'est une voie. Et l'autre voie, c'est de se rallier, parce qu'on a l'impression qu'on a perdu justement en force. Et là, on voit bien que ça, cette question, elle était posée dès décembre, elle est posée aujourd'hui de manière encore plus aiguë, et c'est pas une question où il y a un seul joueur, parce que l'autre joueur, c'est évidemment, on peut dire, les organisations organisations de gauche au sens large, qui ont été en fait très sceptiques et très clivées par le mouvement, très sceptiques vis-à-vis de lui, et qui en réalité, bon voilà, vont peut-être récupérer la mise ou pas, mais on peut pas dire que de leur côté, il y a eu un grand travail, disons, de questionnement, d'autocritique, de modification de leur manière de faire, alors même que c'est un mouvement qui porte des valeurs historiques de la gauche, notamment de justice sociale, mais avec des méthodes et une sociologie qui est pas exactement celle de la gauche.
Sophie Delpont. Comment expliquer justement qu'un mouvement comme la France Insoumise, qui revendique justement de capitaliser sur la colère, qui aurait pu se rapprocher, ou en tout cas peut-être se gilet jauniser, n'ait pas réussi?
Bah écoutez, là, c'est encore à voir. Je crois que François Ruffin a fait un film sur le mouvement. Enfin,
François Ruffin n'est pas la France insoumise.
C'est une manière de parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'à la France insoumise, il y a eu plusieurs attitudes vis-à-vis du mouvement. Il y a eu des attitudes de proximité, disons précoces. Je pense à celle de François Ruffin. Il y a des attitudes qui ont été plus distantes. Il y a en même temps des mots d'ordre actuels au municipal. Bon, la France insoumise a les mêmes problèmes que la République en marche vis-à-vis des municipales. Il n'y a pas d'élus locaux antérieurs. Donc leur problème, c'est que faire? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des élus qui viennent d'ailleurs? Pas beaucoup. Est-ce qu'on peut faire des listes citoyennes avec d'autres? Probablement. Et donc là, il y a une fusion possible entre l'agenda, disons, municipal de la France insoumise et la poussée citoyenne des Gilets jaunes qui peut, pour certains, dans certains cas, aller vers les municipales. Donc voilà, je le vois dans des mots d'ordre qu'a repris le parti de la France insoumise, enfin le mouvement de la France insoumise, comme le mot d'ordre justement communal, etc., ou l'appel aux communes. Bon, on voit bien qu'autour de ça se jouent effectivement des possibilités d'hybridation entre le mouvement. Mais je ne crois pas que c'était en tout cas l'objectif du mouvement à son départ. Là, c'est un jeu de transactions qui va durer encore toute l'année et qui est très complexe entre, disons, les mouvements de gauche et le mouvement des Gilets jaunes.
Arnaud Benedetti, les Gilets jaunes qu'on entend dans le reportage disent dans les mesures qui ont été annoncées, en réalité, il n'y avait rien pour nous. Ça, c'est le ressenti des personnes qui ont été interrogées par Sophie. Quelle est la réalité? Est-ce qu'ils ont quand même, parce qu'il y a eu une réorientation fiscale en direction du pouvoir d'achat, il y a eu quand même des mesures assez conséquentes présentées. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réellement obtenu?
Ils ont obtenu deux choses, ils ont obtenu 17 ou 18 milliards, ce qui est considérable en effet au regard en plus de l'objectif d'Emmanuel Macron de maîtriser la dépense publique. Et ils ont surtout obtenu une victoire symbolique qui pèse aujourd'hui sur la suite du mandat, c'est que il ne faut jamais oublier que Emmanuel Macron s'est construit comme l'homme qui, contrairement à ses prédécesseurs, ne reculait pas face à la rue. Et souvenez-vous, au début du mouvement, il y avait une véritable intransigeance affichée de la part du gouvernement de ne pas céder sur cette question de la taxe carbone. Et on a vu que 15 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, après le début du mouvement, le président de la République a été obligé, in fine, de céder.
C'est d'ailleurs souligné par un des Gilets jaunes du reportage.
Sur cette mesure. Et il a été obligé de répondre à la demande de parole et à la demande de considération qui est extrêmement forte. Si vous voulez, en fait, le problème de ce mouvement, c'est ce que Clausewitz s'appelle la montée aux extrêmes. À un moment donné, un mouvement, il s'autonomise, il a sa dynamique propre. Et au début, on est parti d'une question finalement de consentement à l'impôt, qui était une question qui aurait pu se régler en 24 heures si le gouvernement, à ce moment-là, et d'ailleurs un des Gilets jaunes le dit, avait décidé tout simplement de faire marche arrière. Et inévitablement, cette crise conjoncturelle a fait apparaître une crise structurelle qui existe depuis très longtemps. Et c'est cette crise structurelle qui a donné lieu ensuite à des mots d'ordre politique, des mots d'ordre de revendication en matière de pouvoir d'achat, des mots d'ordre de réorientation de politique économique qui ont véritablement, fondamentalement changé la tournure du quinquennat. Donc ils n'ont pas obtenu énormément, en effet, à leurs yeux, en ce qui concerne les mesures concrètes du gouvernement, mais ils ont beaucoup obtenu dans le changement de regard que l'on porte aujourd'hui sur ce mandat.
Et alors justement, est-ce que vous avez l'impression que le mouvement a été réellement compris par l'exécutif?
Alors si
au début non, mais
certainement pas au début, en tout cas, puisque au début, souvenons-nous de la communication politique du gouvernement, c'était d'enfermer ce mouvement dans une représentation profondément négative aux yeux de l'opinion publique. Le problème, c'est que ce mouvement était soutenu fortement par l'opinion publique, et la force de ce mouvement, c'est pas tant sa mobilisation quantitative sur le terrain, c'est qu'il a bénéficié d'une énergie qui était liée, notamment aux études d'opinion. Est-ce que le gouvernement a compris le le mouvement. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris la dynamique sociale profonde qui préside à ce mouvement, mais il a profondément réorienté sa communication.
Dernière question, Laurent Jean-Pierre. Dans l'introduction de votre livre, vous écrivez « Les Gilets jaunes n'ont pas tourné en rond ni en vain. Leur vie a pris un autre relief. Qu'est-ce qui a changé ?»
Bah écoutez, en tout cas, pour des gens qui participent à un mouvement social d'une telle ampleur en n'ayant jamais fait de politique avant, de toute façon, la vie est différente. Il y a eu un apprentissage collectif, ça a été dit. C'est aussi un mouvement qui a un rôle, disons, une fonction d'éducation politique collective, populaire, très, très forte. Après, effectivement, dans l'espace public, je crois que ce qui a changé, ou en tout cas, dans les manières de faire la politique, c'est que, paradoxalement, alors même que ce mouvement est parti d'une contestation d'une taxe, sur l'essence, en réalité, c'est un mouvement qui a permis d'articuler pour un grand monde les questions de justice sociale et les questions écologiques. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose un peu d'irréversible pour beaucoup de forces politiques, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, disons, faire comme si ces deux questions étaient complètement étanches l'une avec l'autre.
Merci Laurent Jean-Pierre, merci Arnaud Benedetti. Gilets jaunes, un an après, les mutations d'une contestation. Le grand reportage de cette semaine était signé Sophie Delpont. Réalisation Jean-François Braunet, François-Charles Domergue avec Théo Gomard à la technique. Et merci bien sûr à l'équipe de la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.